Enjeux de santé, le magazine Prévention Santé de Radio Campus Rennes.
En partenariat avec l'Agence Régionale de la Santé et la Région Bretagne.
Au programme d'Enjeux de santé cette semaine, je vous emmène dans l'espace Vie du citoyen de la Bibliothèque des Champs Libres pour découvrir un dispositif étonnant de sensibilisation aux problématiques liées à la santé mentale. Une bibliothèque de livres vivants. Impulsée par le collectif rennais de santé mentale, la bibliothèque de livres vivants se veut être un espace d'échange entre professionnels ou usagers des dispositifs de santé mentale et les citoyens soucieux de s'informer ou d'obtenir des réponses hors des murs des établissements de santé mentale. Allons à la rencontre des porteurs de ce projet, avant que Sylvie et Paul, tous deux livres vivants, ne nous livrent leurs témoignages et impressions.
Bonjour, donc je suis Christine Cordonnier et je m'occupe du service Action culturelle pour la Bibliothèque des Champs Libres.
Bonjour, Vincent Lepage, je suis cadre de santé dans le pôle hospital universitaire de psychiatrie adulte du centre hospitalier Guillaume Régnier.
Bonjour, David Levoyer, médecin psychiatre dans le service hospital universitaire et responsable du centre ressources famille et troubles psychotiques.
Bonjour, et moi je suis Laurence Renaud, l'infirmière du centre ressources famille et j'appartiens au collectif de la semaine d'information sur la santé mentale.
Comme je suis la vraie bibliothécaire, entre guillemets, on va vous expliquer ce que c'est qu'une bibliothèque vivante. Il s'agit d'emprunter un livre, comme dans toute bibliothèque, pour une durée donnée, et puis après de le restituer. Sauf que aujourd'hui, les livres ne sont pas des livres sur papier, ne sont pas des textes écrits, mais les livres sont des personnes qui vont témoigner. Donc en fait, une bibliothèque vivante, c'est le moyen d'aborder une autre manière, une question. Non pas par l'écrit, mais par la rencontre avec une personne, dans un cadre que l'on va pouvoir vous décrire tout à l'heure, si vous le voulez, parce que la réussite aussi de ce dispositif, c'est qu'il est très encadré, précis. On vient, on emprunte un livre pour 20 minutes, et puis on le rend ensuite.
L'histoire du dispositif, en fait, c'est un dispositif qui existe depuis les années 2000, qui ont été développés dans les pays nordiques de manière à offrir aux populations en situation de stigmatisation de pouvoir échanger sur leur situation auprès du grand public d'une manière simple, sans que la parole soit retraduite par les médias, par un livre, par la télé, par la radio. En direct, l'échange se faisait comme ça, et au fur et à mesure des années, ça a été repris par le Conseil européen et ça a pu être développé dans le domaine de la santé mentale où il est aussi important d'apporter des moyens un peu originaux de lutter contre les préjugés. Et c'est parce qu'avec mes collègues qui sont présents là, nous sommes allés à un congrès professionnel et on est allés dans divers ateliers et on a été à un atelier qui présentait la bibliothèque vivante qui avait été faite à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, qui offrait la possibilité à des personnes qui ont des troubles psychiques de pouvoir parler de leur expérience. On a trouvé ça intéressant, on s'est dit on va revenir à Rennes, on va aussi proposer le concept. Et lors d'une réunion, j'ai fait la connaissance de Christine, là, comme disait tout à l'heure, la vraie bibliothécaire des Champs Libres, où je lui ai proposé l'expérience, cette fois-ci, de lieu offrir aux gens d'emprunter un livre, de pouvoir emprunter une personne vivante qui vient raconter quelque chose de sa vie, de son expérience. On s'est dit banco, on a organisé sur diverses rencontres le cadre dans lequel ça allait se passer. Et quand je dis cadre, au-delà du lieu, c'est-à-dire d'avoir les livres, vers quel lecteur on se dirigeait, et puis de pouvoir proposer à des personnes d'être bibliothécaires pour garantir le confort, la sécurité de l'outil. Mais Christine peut aussi expliquer.
Nous, Champs Libres, notre position, c'est vraiment de mettre en avant la semaine de la santé mentale pour contribuer à déstigmatiser cette question. Donc on le faisait traditionnellement à travers l'organisation d'une conférence. Donc il y en a une encore la semaine prochaine, le 25 mars prochain, avec Jean-Claude Quintel autour de la question de l'adolescence. Mais là, c'est un dispositif autre. Et nous avons au sein des Champs Libres un espace qui s'appelle Vie du citoyen. Qui est le lieu de la presse, mais qui est aussi un lieu qui porte bien son nom, c'est-à-dire qui essaie, par des rencontres, par des paroles d'association, de poser des questions de citoyenneté. Or, la question de la santé mentale, si ce n'est pas une question de citoyenneté... Le principe de la bibliothèque vivante commence un petit peu à se développer au sein des bibliothèques. Sur toutes ces questions à la marge, à la frange dont tu parlais tout à l'heure, autour des questions d'immigration, autour des questions du genre, enfin, toutes ces questions de société un peu taboues. Donc c'est vrai que nous avons, nous, notre place en tant que bibliothèque pour aborder ces choses-là à travers les livres, mais aussi en faisant vivre ces livres, et là, de cette manière.
Est-ce qu'on impose un cadre un peu éthique pour ce genre de rencontre, ou quelles sont les limites finalement, puisqu'on aborde quand même des sujets qui touchent à l'intime et à des histoires de vie qui sont parfois extrêmement singulières? Est-ce qu'on met un cadre précis? Est-ce que le praticien en psychiatrie, par exemple, aurait des préconisations à faire pour... vous souriez, mais est-ce qu'il y aurait peut-être des préconisations pour ne pas aller trop loin non plus dans l'échange?
Vous soulevez une question importante. Cette bibliothèque vivante, elle est préparée. Elle est préparée par des réunions en amont de la manifestation d'aujourd'hui. À partir du thème de la semaine d'information en santé mentale, qui est un thème national. Donc cette année, c'était l'adolescence. L'année dernière, c'était sur les idées reçues en santé mentale. Et l'année précédente, c'était ville et santé. Voilà, ville et santé mentale. Et donc, sur ce thème de l'année, on a, nous, en tant que centre ressources famille et troubles psychotiques, finalement des partenaires très très variés qu'on sollicite. Et on prépare, chacun prépare un thème ou deux. La plupart du temps, chaque livre prépare plutôt deux thèmes pour pouvoir avoir un peu le choix. Et puis là, ils sont embarqués quand même de 16h à 20h par séquence de 20 minutes. Donc ça nécessite quand même d'avoir un peu de bagou à répéter. Donc pour pas trop s'ennuyer, on leur préconise d'avoir plutôt deux thèmes. Donc il y a cette préparation en amont qui garantit déjà que le thème, c'est eux qui choisissent en tant que livre. Et puis il y a un règlement intérieur, hein, donc, de sorte que le lecteur, s'il est éventuellement intrusif par des questions, par une histoire personnelle qu'il ramène lui au sein du témoignage du livre, le livre peut rappeler que c'est son témoignage en tant que livre, et que de la même façon qu'on ne choisit pas trop le thème du livre quand on l'emprunte à la bibliothèque, là on ne choisit pas trop ce qu'on met dans le livre. C'est le livre qui choisit. Et ça permet de garantir l'échange de qualité, et généralement les gens s'en accommodent très bien.
Dans ce cadre-là, ce qui est prévu aussi, c'est le rôle des... Alors on va dire des faux bibliothécaires, hein, puisque pour cette bibliothèque vivante, les bibliothécaires qui sont présents là, qui sont en charge d'accompagner les lecteurs tout au long du dispositif, on est tous professionnels de santé. Donc on a aussi une connaissance du réseau ou des numéros utiles, des adresses, des choses comme ça. Donc on peut éventuellement prendre le relais dans ce cadre-là si l'échange, le témoignage fait que le lecteur a des questions, a envie de parler, voilà. Le livre peut nous le préciser et du coup on prend la suite auprès de cette personne-là pour éventuellement voilà, continuer la discussion ou la rendre plus personnelle par rapport au lecteur, ou lui proposer les numéros où il peut s'adresser ensuite s'il a besoin.
En fait, le choix, il s'est fait, je ne vais pas dire par hasard, mais presque, dans le sens où, en fait, nous, on a communiqué autour de cette bibliothèque vivante, auprès, parce que là, le choix avait été quand même assez orienté vers plutôt des professionnels, pas que, mais plutôt des professionnels cette année, par rapport à la première année où il n'y avait eu que des usagers, et, ou des familles, ou des proches. Et donc, on a expliqué un peu cette aventure à nos collègues, et eux nous ont proposé des thématiques en lien avec l'adolescence. Alors évidemment, on avait plutôt sollicité des professionnels qui étaient, de par leur travail, déjà en lien avec l'adolescence, mais pas que. Et puis dans le cadre des réunions préparatoires, ben voilà, le choix des thèmes abordés, c'est fait comme ça.
Vous parliez tout à l'heure, vous employiez une expression qui était celle de la déstigmatisation des usagers des dispositifs de santé mentale ou de psychiatrie, etc. etc. Est-ce que c'est pas aussi un moyen pour les professionnels de faire connaître un peu leurs actions, de décrire peut-être plus précisément ce qu'ils font au quotidien?
C'était un peu cette année l'option qui a été prise, c'est-à-dire que les livres soient plutôt des professionnels pour justement essayer d'ouvrir... le champ des connaissances concernant les ressources qui existent dans le bassin rennais, en direction des adolescents, et puis avoir surtout le souci de la prévention, parce que nous on est dans un domaine où on est beaucoup dans le curatif, Mais quand on est dans le champ de l'enfance et de l'adolescence, il y a aussi une extrême importance à ce que le champ de la prévention soit au premier plan. Et donc là, cette année, c'était l'option.
Je voudrais juste rajouter quelque chose sur le fait que cette bibliothèque vivante, elle se passe dans un espace public ouvert à tous. Et pour nous, cette démarche-là, elle était intéressante et importante. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des personnes qui viennent parce qu'elles ont repéré ce rendez-vous. Et c'est très bien. Mais aujourd'hui, on est mardi, les champs libres sont ouverts. Il y a un public qui rentre et... tout à l'heure, j'étais un peu obligée de dire aux personnes qui étaient là pour lire leur journal, pour être devant leur ordinateur ou bien pour venir travailler, écoutez, aujourd'hui, il se passe quelque chose d'un petit peu particulier, vous allez être un peu dérangés, voilà ce que c'est. Et on se rend compte que dans des échanges, il y a des personnes qui basculent, c'est-à-dire qui disent, c'est intéressant, je vais venir, je vais participer. Et pour moi, ça a tout son sens. C'est vraiment intéressant d'être dans ce lieu ouvert, parce que ça contribue largement à cette idée de déstigmatisation et de meilleure connaissance, tout simplement.
Alors, une dernière question peut-être pour les professionnels de santé. Est-ce qu'on pourrait imaginer que ces dispositifs-là aient une valeur thérapeutique, peut-être, pour les usagers en santé mentale ?
Alors, votre question est fort pertinente. Oui. Oui, oui, on a des illustrations, vous avez fait don de télépathie, mais oui, on a des... C'est le psychiatre qui parle. On a des illustrations de personnes qui non seulement ont répondu présent la première fois, mais qui nous ont surtout prié de ne pas les oublier pour venir témoigner sur d'autres sujets les autres années, parce que justement, ça a une valeur thérapeutique, en tout cas, de dire, d'échanger à l'autre. Et ça, c'est précieux, c'est vraiment précieux.
Oui, bonjour à tous, je m'appelle Sylvie Lally-Aimé, je suis infirmière psy et je travaille à mi-temps en CMP, alors CMP de Villejean, CMP urbain avec une population très hétéroclite, et CMP de Montfort où la population tranche d'âge identique, mais par contre une population plus locale, plus rurale.
Alors qu'est-ce qui vous a peut-être passionné dans ce projet de livre vivant ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes parmi tous ces livres vivants dans la salle citoyenne des Champs Libres ? Et de quoi vous parlez, vous, livre vivant ?
Moi j'ai été interpellée par des collègues avec qui j'avais déjà travaillé en partenariat à travers des situations d'adolescents que je suivais dans le cadre de mon activité antérieure qui était à la Maison des Adolescents, qui accompagne des adolescents en grande difficulté avec des ruptures sociales, familiales, et donc où il y a tout un projet global à reconstituer pour rattraper, j'ai envie de dire, hein, ces adolescents qui sont un peu en perdition avec des symptômes plus ou moins bruyants, mais en tous les cas, tout ce qui témoigne d'une profonde détresse. Bien souvent, ce sont les parents, l'entourage, qui décèlent chez eux des choses qui ne vont pas. Alors, surtout chez les adolescents bruyants, hein, ceux qui, on en parlait tout à l'heure tous les deux, ceux qui ferment qui claquent les portes très fort, trop fort, ça alerte les parents. Donc il y en a beaucoup, ils claquent la porte pour juste dire qu'ils ne sont pas d'accord et qu'ils n'ont pas les mots pour le dire. Et puis il y en a qui vont claquer la porte différemment ou pour s'y enfermer dans leur chambre et avoir vraiment du mal à en sortir. Donc c'était surtout en pensant à ces adolescents-là que j'ai accepté avec un petit peu d'appréhension, parce que c'est pas simple de venir partager, mais grande nécessité, un besoin et un devoir professionnel.
Parmi les livres que vous présentez, que vous lisez, on va dire ça comme ça, il y a le premier, donc c'est Alerte, alerte, gare aux clignotants. Alors, on va peut-être préciser de quel clignotant il s'agit, et je ne sais pas si c'est vous qui avez proposé cette thématique, mais quel est le lien que vous établissez peut-être avec votre pratique professionnelle ? On imagine que ça doit avoir une résonance assez particulière par rapport à votre activité de tous les jours.
Tout à fait. Alors, dans un centre de consultation, en fait, les adolescents sont, on reçoit les adolescents et ils présentent ce qu'on appelle certains symptômes. Donc, plus ou moins bruyants, ce que je disais, la porte qui claque, l'irritabilité, les troubles du sommeil, baisse des résultats scolaires. Donc, tout ça, c'est tout un faisceau d'alerte, hein, de petits signaux qui doivent alerter l'entourage, sans pour autant dramatiser tout de suite et courir chez le psy tout de suite, mais quand même une vigilance pour voir la fréquence, si ça dure, si c'est possible de parler de ces modifications de l'humeur, de comportement, qui encore une fois se retrouvent dans la quasi-majorité des adolescents, à petit bruit ou plus grand bruit, mais pour lequel dans un certain nombre, ça va basculer sur des symptômes plus, qui vont rester, qui vont s'amplifier et qui vont être significatifs, soit d'une profonde détresse, et ça peut être également aussi l'entrée dans une pathologie mentale. Donc, du coup, ce qui veut dire que plus on repère précocement ces symptômes, qu'on les évalue, si on, il y a un diagnostic qui se précise et si ça finit vers des inquiétudes de troubles mentaux, mais là, bien évidemment, la prise en charge la plus précoce donnera le meilleur résultat pour le devenir de cet adolescent et puis son bien-être et prendre en compte sa souffrance.
Alors ça, c'est pour la partie, on va dire, un peu plus prévention et donc un repérage un peu plus précoce. Par contre, le deuxième livre que vous proposez est peut-être un peu moins réjouissant dans la mesure où il s'intéresse plutôt à la question de l'adolescence inaccessible. Est-ce que vous pourriez peut-être nous donner quelques petites précisions sur ce que vous avez voulu entendre par ce terme ?
Oui, alors quand je parle d'adolescents inaccessibles, c'est ces adolescents qui ont eu ce processus de désocialisation. Bien souvent d'abord, ça commence par une déscolarisation, avec des enfants qui restent au domicile, qui arrêtent de rencontrer leurs copains, qui ne vont plus au sport, plus aux cours de musique. Enfin, tout se délite progressivement pour arriver à des situations extrêmes d'adolescents qui sont enfermés chez eux, parfois même dans leur chambre, qui ne viennent même plus manger à table avec leurs parents, qui sont complètement déconnectés et surtout inaccessibles, qui peuvent vivre en plus de façon extrêmement menaçante, voire violente, les tentatives de maintien de liens. Donc là, dans ces cas-là, les parents ou les gens qui connaissent nous alertent. Bien sûr, et heureusement, c'est une petite frange, mais ils existent, ils sont en souffrance. Et le grand drame qu'il faut éviter, c'est l'installation, puisque cet adolescent replié, il n'est en lien qu'avec lui-même, qu'avec sa psyché. Et s'il a des idées singulière, particulière, je pense là par exemple à une méfiance, une défiance sur le monde extérieur, elle ne peut être que renforcée dans la mesure où il est tout seul à ruminer ses pensées et qu'il n'y a plus de feedback pour lui renvoyer d'autres façons de penser, de souplesse, de raisonnement, des choses comme ça. Et là, c'est vrai que c'est extrêmement préoccupant parce que ça peut aller très vite. Et donc, quand on dit inaccessible, c'est que là, à ce moment-là, il faut inventer, avoir l'autorisation des familles ou du lieu de vie où il est, aller à leur rencontre et l'inventer, créer en fonction de ce qu'on pressent chez cet enfant, cet adolescent, le plus petit fil, le tirer pour non pas, alors déjà lui signifier parce que lui nous renvoie sa souffrance, mais lui proposer des petites choses à partager pour avoir un vécu commun qui va autoriser l'adulte à pouvoir rentrer progressivement un peu plus dans sa sphère intime et aborder l'intime. Mais il faut d'abord proposer des choses à partager. C'est-à-dire que l'adolescent, là je pense à un adolescent qui était chez lui depuis 2 ans, déscolarisé, un enfant qui avait 17 ans quand ça a commencé. Et donc en fait, on rencontrait ses parents, c'était convenu, on discutait quelque chose, une situation dramatique pour eux, très inquiétante, très anxiogène. Et notre ado, Mathieu, il s'appelle toujours, bien sûr. Et lui, il était à l'étage et on l'entendait. Vous voyez, il marchait, il savait qu'on venait, il savait qu'on venait pour lui, mais c'était trop difficile pour lui de nous voir. Donc en fait, je lui ai laissé des courriers, des choses comme ça. Et quand donc on y allait tous les 15 jours, toujours la même heure, etc. Et quand la fois d'après, ses parents disaient: il a pris votre courrier, il l'a lu, vous voyez, des choses comme ça. Donc du coup, on partait rien que de ça. C'est Mathieu, j'ai su, tes parents m'ont dit que tu avais lu mon courrier, qu'est-ce que tu en penses? Donc on faisait des suggestions. Et puis l'histoire se termine très très bien, puisque au bout de 2 ans quand même, mais Mathieu, un jour, c'est lui qui nous a ouvert la porte, et il avait beaucoup beaucoup de choses à dire, et on a pu engager un soin avec des collègues justement, Et puis il a repris des soins, il a repris une formation, etc. etc.
Qu'est-ce que ça a donné aujourd'hui vos différents lecteurs parce que vous êtes le livre qui est lu. Qu'est-ce que ça a donné? On imagine que c'est une expérience aussi un peu particulière. Ça, c'est un positionnement qui est un peu différent, on imagine, de votre posture professionnelle de la vie de tous les jours. Qui étaient ces gens, si c'est pas trop indiscret? Et comment vous l'avez ressenti un peu cette expérience?
Alors, écoutez, un petit peu d'appréhension évidemment, mais un grand bonheur. Donc pour l'instant, j'ai eu 3 lecteurs, des gens très ouverts que le sujet interpellait par rapport à des expériences personnelles. Ils avaient eux-mêmes expérimenté des choses au niveau des moyens pour entrer en communication et qui en fait avaient envie d'entendre d'autres pistes au niveau des médiations et qui ont vérifié que leur démarche était partagée par moi, professionnel en tous les cas, qui proposait ça. Et puis une troisième lectrice qui effectivement était un sujet qui l'intéressait parce qu'elle connaissait quelqu'un qui était en train, elle trouvait, de partir dans un repli. Voilà, donc elle voulait élargir sa réflexion par rapport à cette inquiétude qu'elle avait.
Merci Sylvie.
Je t'en prie.
Alors, donc moi je m'appelle Paul Guillemot, donc je suis libre vivant aujourd'hui et ma fonction dans la vie normale c'est pédopsychiatre aux urgences pédiatriques de l'hôpital Sud à Rennes. Et donc j'ai été contacté par un collègue pour participer donc à cette expérience.
Alors vous mettez sur la table vous aujourd'hui Paul la question de l'école et la place qu'elle peut avoir aussi dans le repérage peut-être des fragilités psychologiques des jeunes qui la fréquentent. Et vous proposez un autre sujet qui n'est pas forcément en lien, mais vous parlez aussi des modes de résidence de l'adolescent chez ses parents divorcés. On va peut-être aborder les choses un peu dans l'ordre et peut-être établir des liens avec votre pratique professionnelle. Vous me disiez tout à l'heure, quand on parlait tous les deux, que l'idée d'aborder l'école et la capacité qu'elle a de repérer des adolescents fragiles, c'était quelque chose en fait qui était assez présent en fait dans votre pratique professionnelle aujourd'hui en tant que pédopsychiatre.
Oui, tout à fait, parce qu'en fait on a de coutume presque d'en rire, hein, c'est le nombre, la fréquentation des usagers aux urgences pédiatriques, donc pour motif psy, est vraiment hyper corrélé au rythme scolaire. En sachant que si on veut caricaturer, en gros, c'est comme si les ados étaient malades, en tout cas consultaient, quand l'école reprend, étaient en forme dès que les vacances arrivaient. Donc c'est forcément une version un peu simpliste et quasiment ironique des choses. Mais en pratique, c'est vraiment un truc qui se vérifie depuis des années. Donc une fois qu'on a dépassé ce constat-là, on a essayé de comprendre un peu pourquoi, comment. Alors il y a une première chose qui paraît évidente, c'est que l'institution scolaire en elle-même et un facteur de stress pour les jeunes et pour leurs familles, avec quand même un truc qui est hyper présent, c'est à la fois l'angoisse de performance, avec une espèce d'idée extrêmement présente dans le corps social aujourd'hui, qui est que la réussite scolaire ne suffit pas à une insertion professionnelle et sociale ultérieure, mais enfin une condition nécessaire et insuffisante. Et ça de très très tôt, hein. Donc ça c'est évidemment extrêmement anxiogène. Et puis le deuxième aspect, il y a un aspect aussi, on va dire, relationnel, dans le sens où on peut avoir et on peut espérer qu'encore l'école constitue un lieu de convivialité, de complicité, de camaraderie, mais c'est aussi un lieu de complexité relationnelle où beaucoup de jeunes éprouvent des difficultés, soit par inhibition, soit par des phénomènes de harcèlement, tous les phénomènes aussi de bouc émissaire, etc., avec l'usage des réseaux sociaux, et qui font qu'on trouve un grand nombre, soyons raisonnables, par le prisme des enfants qu'on voit aux urgences, de jeunes pour lesquels la fréquentation de l'établissement scolaire, c'est à la fois une crainte de ne pas être à la hauteur des exigences, de ne pas être les exigences des professeurs mais aussi de leurs parents, etc. Et aussi un lieu de stress social dans le sens où je n'arrive pas à m'intégrer dans le groupe, où je suis victime de moqueries, etc., etc., je suis harcelé. voire en but ultime, enfin on en parle beaucoup dans les médias maintenant, des vraies phobies scolaires qu'en fait, qui sont l'équivalent des phobies sociales de l'adulte, c'est-à-dire des jeunes qui littéralement sont en des crises d'angoisse massive dès qu'il s'agit d'approcher l'établissement ou la classe, etc. Donc ça c'est un premier aspect des choses globales sur donc, la dimension anxieuse. Après il y a deuxième dimension qui est un petit peu différente par rapport à l'école, c'est tous les enfants pour lesquels on pourrait souhaiter que l'école soit un espèce de lieu sanctuaire d'épanouissement et d'apprentissage, mais qui en fait devient aussi le seul lieu d'expression de leur colère, de leur détresse, voire de leur dépression. Enfin, je pense particulièrement à des jeunes qui vivent des situations familiales parfois très compliquées, qui ne sont pas en mesure de verbaliser, mais qui en revanche vont exprimer en actes, en comportement transgressif, en provocation, etc., leur mal-être. Et là, à ce moment-là, toute la question, à mon sens, c'est qu'il y ait des adultes au sein des établissements scolaires, pas forcément dédiés, je pense que tout adulte est concerné, pour à la fois détecter ça, et pas simplement en termes de comportement déviant, sanction, mais aussi comportement déviant, pourquoi ? Enfin, il est sanctionné deux, trois fois, ça ne semble avoir aucun effet. Est-ce que je suis informé sur ce qu'il vit ? Est-ce que j'ai rencontré ses parents ? Et donc, à la fois détecter les signaux d'alarme, essayer de les accueillir et de les comprendre. Et une fois que ça c'est fait, ce qui est quand même déjà essentiel, si possible, alors c'est sûr que je parle de ma fenêtre de pédopsychiatre aux urgences, ne pas en déduire que la solution c'est forcément l'orientation immédiate vers des professionnels de la psy, et a fortiori en urgence, dans le sens où je pense que ce dont a besoin le jeune à ce moment-là, et parfois toute sa famille, c'est déjà avoir un lieu où il est entendu et pris en compte, et pas immédiatement, tout de suite, entre guillemets, rejeté et réorienté ailleurs. Alors c'est peut-être beaucoup demandé aux professionnels qui travaillent dans les établissements scolaires, mais en même temps, ça me paraît important, parce que d'une part, moi je suis convaincu qu'il y a un certain nombre de situations qui peuvent se désamorcer s'il y a des professionnels, profs, CPE, pions, etc., qui prennent en compte les choses. Et puis deuxième chose, de façon un petit peu plus égocentrique, c'est que notre boulot, nous, médicaux, psy, dans le cadre hospitalier, il sera facilité si les gens arrivent en n'ayant pas la sensation d'avoir été, entre guillemets, éjectés, voire sanctionnés, en tout cas blackboulés là, dans le cadre hospitalier, vous nous dérangez, il faut que vous alliez voir les experts, mais si au contraire, ils ont senti qu'ils ont été entendus et que ça procède d'un désir d'aider de façon encore un peu plus appropriée leur enfant et leur famille.
Parmi vos lecteurs, je ne sais pas si vous avez eu des parents, mais j'imagine que ça a dû faire extrêmement réagir en fait comme thématique. Lorsqu'on est parent, c'est des questions qui se posent, j'imagine, de façon quotidienne. Qui vous avez rencontré grosso modo aujourd'hui ?
Alors par rapport à cette thématique-là, assez bizarrement, j'ai plutôt eu des témoignages de gens qui sont aujourd'hui adultes, mais qui avaient justement le souvenir de périodes de relatif mal-être pendant leurs années collège ou lycée, et notamment la première personne que j'ai rencontrée cet après-midi, là, et qui en gros était dans une espèce de regret de ne pas avoir eu la chance de rencontrer au sein, par exemple, des établissements scolaires qu'il a fréquentés, des personnes qui auraient pu détecter chez lui et entendre chez lui des émotions, des inquiétudes, un espèce de sentiment d'étrangeté, c'est les mots qu'il utilisait, qu'il a gardé en lui pendant longtemps, et avec la croyance, bon c'est sa croyance, hein, que cette problématique-là fait éruption plus tard dans sa vie, avec l'idée que peut-être s'il avait pu se libérer de ces choses-là à ce moment-là, ça lui aurait épargné un certain nombre de difficultés qu'il a rencontrées plus tard.
Alors le deuxième livre que vous proposez, alors je rappelle le titre, c'est « Le mode de résidence de l'adolescent chez ses parents divorcés, quand liberté et loyauté rentrent en collision et entraînent le jeune aux urgences ». Très beau titre, j'aime beaucoup la mise en tension de liberté et loyauté qui rentrent en collision. Alors peut-être pourriez-vous nous apporter des précisions par rapport aussi à votre pratique. Toujours j'imagine que ça doit être quelque chose qui entre en résonance avec votre quotidien de professionnel.
Ouais, alors pour expliciter le titre, bon alors concrètement, alors pour moi c'est une découverte parce que j'ai 25 ans d'expérience on va dire, mais ça fait relativement récemment que je travaille aux urgences, 3 ans. Je m'étais pas représenté ça, alors je n'ai pas de chiffres précis, hein, mais un grand nombre d'adolescents qui viennent, alors soit pour des tentatives de suicide, soit pour des syndromes anxio-dépressifs divers, pour lesquels un des facteurs déclenchants, voire un des facteurs explicatifs, en tout cas une des préoccupations majeures, c'est celle-là, c'est comment je peux me débrouiller avec deux parents séparés, parfois depuis longtemps, et trouver une place où à la fois je suis confortable et loyal vis-à-vis des deux. En sachant que, en gros, on a un cas de figure très difficile, relativement rare, c'est les cas de figure où on a une guerre, parfois interminable, entre deux parents pour la garde de leurs enfants. Et des enfants qui sont complètement instrumentalisés dans le conflit, qui sont supposés éventuellement donner leur point de vue, mais où, à mon avis, leur liberté d'expression est totalement illusoire, puisque de toute façon, quoi qu'ils disent, ça pourra être interprété comme une prise de position en faveur de l'un ou de l'autre, ce qui, à mes yeux et à leurs yeux très souvent, est relativement insupportable, puisque quelque part, l'enfant est dans le droit ou l'utopie d'un amour inconditionnel de ses deux parents. Ça, c'est le cas, heureusement, assez rare, mais qui, entre guillemets, peut être extrêmement douloureux et, pour tout dire, un peu catastrophique. Hein. Et puis, le cas plus fréquent, qui lui aussi est douloureux, mais qui est, entre guillemets, moins caricatural, où on se retrouve avec un enfant qui, pour des raisons diverses, choisi ou pas choisi, se retrouve à vivre majoritairement avec un de ses parents, qui perd peu à peu un lien satisfaisant avec l'autre, et qui se retrouve aux urgences avec une espèce de plainte. Pourquoi tu ne me vois plus? Pourquoi tu ne m'aimes plus? Pourquoi tu ne fais pas d'efforts pour me revoir? Et avec quelque chose qui est assez, à la fois, on va le prendre positivement, parfois très agréable et un peu ironique, c'est parfois voir deux parents réunis pour leur ado parce qu'il a fait une TS aux urgences. Alors que soit le jeune lui-même n'a pas vu l'un ou l'autre des parents pendant des années, ou qu'en tout cas les deux parents étaient dans un état de tension relationnelle tel qu'ils ne se croisaient jamais depuis des années. Donc quelque part, comme si ces questions-là, alors qui sont liées au lieu d'hébergement, mais aussi à la capacité à maintenir une relation parentale, même lorsque les deux parents sont séparés, étaient réglées de façon tellement inadéquate que parfois le jeune était amené à poser des actes potentiellement inadéquats et évidemment dangereux, mais aussi un peu extrêmes pour résoudre ce problème-là.
Pareil, sur ce point, vous avez eu des lecteurs peut-être un peu singuliers.
Oui, je viens de voir une dame là qui me parlait de ça, en l'occurrence sur un mode entre guillemets moins grave, plutôt sur un mode préventif, parce qu'elle me parlait de son fils qui est un vieil ado, jeune adulte, parce qu'elle est 19 ans, mais qui, me disait-elle, ne voyait plus son père depuis plusieurs années, alors que, bien qu'ils soient séparés depuis longtemps, elle, en tout cas subjectivement, disait avoir œuvré pour que son fils garde le lien avec son père. Et puis en même temps, au décours des événements de vie, donc son fils n'a plus trop de lien avec son papa, et donc sa crainte à elle, que ce soit un frein pour son développement, son épanouissement, son équilibre, etc. Donc c'était intéressant, parce qu'elle venait à la fois s'informer sur ce pourquoi je parlais de ça, et quelque part demander des conseils, une orientation pour comment faire avec ce fils, qui finalement va aussi bien que possible, mais pour laquelle elle s'inquiète. Et donc je lui ai dit, l'anxiété maternelle était quelque chose de tout à fait normal et sain, mais un des meilleurs moyens aussi de faire en sorte que lui trouve éventuellement des solutions à son problème, c'est lui faire confiance et lui dire qu'elle croit en lui et qu'il trouvera des solutions pour renouer un lien avec son père s'il en a le besoin.
Merci Paul.
C'était Enjeu de santé sur le 88.4 de Radio Campus Rennes. Comme à chaque fois, retrouvez les podcasts de l'émission sur www.radiocampusrennes.fr.